Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
Le passage biblique sur lequel repose ce cours, Noémie vous l'a lu avant de chanter son chant sur le psaume 139. Donc je vous encourage à relire ce psaume régulièrement, en tout cas le temps que on partagera sur ce thème. Moi, c'est un psaume qui m'a beaucoup parlé. Je pense qu'il est là aussi pour édifier nos vies, nous encourager. Il y a énormément de choses, énormément de matière au travers de ces 24 versets. Parfois même, on pourrait se poser la question, on le verra ensemble, est-ce que tout est bien lié? À un moment donné, on a l'impression que tout se suit, et puis boum, il y a comme une coupure dedans, et on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'auteur est allé après sur un sujet différent, notamment quand il dit à un moment donné, « Oh Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi », et on se dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, je pense que ce psaume a besoin d'être expliqué pour arriver à bien comprendre pourquoi David, qui en est l'auteur, eh bien, a ainsi rédigé ses paroles. Pour moi, c'est un psaume magnifique que le psaume 139, et j'espère que vous partagez mon avis sur ces choses. Comme tous les autres chants, parce que les psaumes sont des chants, comme tous les autres chants de ce merveilleux recueil, la lecture du psaume 139 nous met en contact avec la source intarissable. Amen. Et que Dieu soit béni d'être pour nous cette source intarissable. En relisant les 24 versets de ce psaume, je réalisais la pertinence toujours actuelle de son texte, qui est vieux pourtant de près de 3000 ans. Ça fait 3000 ans qu'il a été écrit, et quand je lis ce psaume, je me dis, ça me parle encore à moi aujourd'hui. Et j'espère que ça parle aussi à vos personnes ce matin, ou qu'à chaque fois que vous le lisez, eh bien Dieu s'adresse à vous d'une manière particulière. Bien sûr, il y est fait mention des attributs de Dieu qui ne changent pas. Et quand on parle des attributs de Dieu qui ne changent pas, on pourrait se dire, bah, ça va rester pertinent, puisque Dieu ne change pas, à 3000 ans d'écart, Dieu reste le même, et on peut continuer à parler des attributs de Dieu sans en altérer les contenus, bien évidemment. Mais il y est aussi question de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et l'homme vis-à-vis de Dieu, lui, il change. Amen. Nous changeons. C'est là que l'on découvre avec objectivité que l'homme moderne peut se retrouver en totale adéquation ou en phase avec les états d'âme partagés par le psalmiste. David était, et c'est Dieu qui l'appelle ainsi, l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas un homme qui est toujours en pleine objectivité, je vais bien, tout va bien. C'est pas quelqu'un qui est toujours au top, high level de la vie spirituelle. Il est parfois vraiment dans les bas-fonds. Il rame dans les difficultés, dans les angoisses, dans la peur, dans toutes sortes de sentiments et d'émotions. Et j'aime l'objectivité, eh bien, de David parce qu'il laisse tout apparaître au travers de ses chants. Imaginez qu'il y a des chants, il les a composés alors qu'il était roi. Et je me dis, est-ce que le roi faisait des concerts le samedi soir dans la ville? Est-ce qu'il chantait ses chants? Quel était son auditoire? Comment les choses se passaient? Mais en tout cas, les gens devaient se dire, waouh, qu'est-ce qu'il vit actuellement, lui? On peut entendre aussi les états d'âme dans les prières, en tout cas de ceux qui évitent d'avoir des filtres dans leurs prières et qui déversent leur cœur, et je vous encourage à le faire. Parce que l'église, c'est bien un endroit où on peut ouvrir son cœur et le déverser. Et peu importe ce que les autres pensent, l'essentiel, c'est d'être sincère devant Dieu. Et donc, à partir de là, David exprimait tout ce qui était dans son cœur, tout ce qu'il ressentait, tout le poids qui pouvait peser sur ses épaules et toutes les difficultés qu'il rencontrait. Et il opposait à son état, eh bien, la personne de Dieu. Et on voit que David, ce n'est pas tant à lui, il fait des constats sur sa vie, il explique ce qu'il ressent, mais sans cesse il se place face à Dieu, ce Dieu qui ne change pas, ce Dieu qui reste le même et ce Dieu qu'il se plaît à écrire les qualités, les attributs. Et je pense que David a compris quelque chose qu'il nous faut comprendre ce matin. Eh bien, quand on passe par les difficultés et les mauvais moments, c'est pas tant à nous qu'il faut regarder. C'est pas tant se focaliser sur soi, sur sa propre personne, mais diriger nos regards vers Dieu. Et la Bible dit, quand on tourne ses regards vers lui, quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Quelle grâce de pouvoir le contempler ce matin. Le voile a été déchiré. Nous n'avons plus un Dieu qui est caché, mais un Dieu qui se révèle, un Dieu qui souhaite que nous puissions le contempler afin que la joie prenne toute la place dans nos cœurs et dans nos vies. Alors je vous propose de méditer sur ce psaume que nous aborderons pendant minimum 4 dimanches dans le cadre de la série intitulée « Dans l'intimité de Dieu ». L'intimité de Dieu est un des grands thèmes de ce psaume et c'est sous ce thème que nous allons l'aborder, il y en a d'autres, mais c'est au travers de ce thème, dans cette perspective, qu'on va aborder ensemble cette série. Cette intimité que l'on pourrait également qualifier de proximité, parce que qui dit intimité, dit proximité. Comment je peux vivre l'intimité avec une personne si je ne suis pas dans sa proximité? C'est dur d'être intime avec une personne qui est à 2000 km de nous, non? Même avec les moyens modernes, avec l'informatique, c'est pas vraiment de l'intimité. On peut avoir un partage, mais certes, il sera limité. L'intimité nécessite de la proximité. Et cette proximité n'est pas tant celle qui résulterait de l'activité de l'homme et de la femme, qui entrerait dans une pratique religieuse en quête d'une expérience mystique. Il n'est pas question de ça. Mais de celle d'un Dieu qui se révèle tel qu'il est, dans toute son activité, en faveur d'un homme et d'une femme qui en est le bénéficiaire, le réceptacle. C'est pas dur d'entrer dans l'intimité de Dieu parce que Dieu est omniprésent. Donc c'est un Dieu de proximité de par un des attributs de Dieu, son omniprésence. Après, ce n'est pas le problème de Dieu d'être proche de nous, c'est notre problème à nous d'être proche de lui et de réaliser sa présence. Donc entrer dans l'intimité de Dieu, c'est quelque chose que nous devons arriver à comprendre, c'est quelque chose dans lequel il nous faut entrer. La véritable foi part toujours de Dieu. Certains ont mal compris comment la foi va naître dans le cœur de l'homme ou de la femme. La véritable foi, elle part de Dieu. Même si elle a trop souvent été présentée comme partant de l'homme, de son cœur, face à un Dieu qui se révélerait. Alors on va mettre notre foi en lui. Non, non. La véritable foi, elle part de Dieu, elle ne part pas du cœur de l'homme, de son besoin de transcendance, de sa volonté, d'un désir qui jaillirait de son cœur de vouloir être connecté à la divinité. Alors il recherche Dieu, il recherche quelque chose qui soit au-delà de lui ou au-delà d'elle. Personne ne peut générer la foi chez celui qui ne croit pas. Alors vous ne mettez pas en quête ou en activité de dire « je vais tout faire pour que la foi naisse en lui ou en elle ». Parce que tu n'y arriveras pas. On ne peut pas générer la foi dans le cœur d'un autre. On peut entraver le fait qu'à un moment donné, eh bien, ils reçoivent la foi par un mauvais comportement, une mauvaise attitude, un mauvais témoignage. Mais personne ne peut générer la foi dans le cœur de l'autre. Ainsi, on ne démontre pas Dieu par des paroles ou un raisonnement aussi élaboré soit-il. Paul, dans Éphésiens 2:8, va écrire « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et Paul rajoute « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le salut, nous le recevons par la grâce, mais pour ça, il faut que nous ayons la foi, et tout cela ne vient pas de nous, tout cela vient de Dieu. C'est lui qui met en nous la foi pour que nous puissions comprendre le message du salut, le message de la grâce, et que nous puissions le recevoir. Ainsi, la foi vient de Dieu, et c'est assez facile à comprendre quand on évite de compliquer trop les choses. En effet, par nos propres moyens, c'est-à-dire par nos 5 sens naturels, nous ne pouvons percevoir que les choses matérielles de ce monde. Seulement, nul ne peut se convaincre tout seul de l'existence de Dieu. La réalité de la résurrection de Jésus-Christ et de sa nature divine, nul ne peut s'en convaincre seul. Tout au plus pouvons-nous accepter sa mort sur la croix comme un événement historique. Certains croient que, effectivement, un certain Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans. Mais de dire que ce Jésus est le Fils de Dieu, Dieu incarné, c'est autre chose. De croire qu'il est ressuscité, c'est autre chose. Mais pour tout ce qui est du domaine spirituel, c'est-à-dire du domaine non perceptible par nos sens naturels, ceci est naturellement inacceptable. Pour percevoir les choses qui ne sont pas du domaine naturel, tangible, qu'on peut analyser par nos cinq sens, il faut que la foi soit mise en nous, sinon on ne peut pas le capter. Et c'est Dieu qui place la foi en nous pour pouvoir comprendre, accepter et réaliser les choses qui se déroulent dans le domaine spirituel. Nous croyons en ces réalités célestes qui ne sont ni vues, ni entendues, ni perçues, ni senties, ni touchées, parce que la conviction en a été placée surnaturellement en nous par l'activité du Saint-Esprit. Un chrétien n'a pas besoin de ressentir, pas besoin de voir et de toucher. Je lisais cette semaine quelque chose qui m'a bien fait lire, où une personne dit « Mais moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. » Ce à quoi la personne lui répond « Ah bon, t'as déjà vu saint Thomas ?» Donc parfois, on n'est pas très logique dans notre tête. Je crois que ce que je vois. Dans le domaine spirituel, nous pouvons croire à des choses que nous ne voyons pas, mais ce n'est pas de notre fait, c'est parce que Dieu est en activité à l'intérieur de nous pour nous permettre de commencer à percevoir ce que l'être humain, dans sa nature humaine, eh bien, ne peut arriver à embrasser, à réaliser, à capter. Cette conviction, cette ferme assurance vient de Dieu. Elle ne peut pas venir d'ailleurs. C'est Dieu lui-même qui nous a donné la foi en lui. Et la foi en lui nous a donné le salut, la vie éternelle. La grâce divine demeure donc le cadeau immérité et inaccessible que Dieu accorde à qui il veut. C'est ainsi qu'il nous fait entrer dans son intimité, qu'il nous invite à lui. On ne peut pas forcer la porte de Dieu. On ne peut pas forcer la présence de Dieu. Dieu se révèle à qui il veut. Alors, les motivations de Dieu pour savoir à qui il va se révéler, ça lui appartient. Je ne suis pas dans les pensées de Dieu pour savoir quels sont les critères. Pourquoi se révèle-t-il à ce frère ou à cette sœur à cet endroit et celui qui est à côté semble rester totalement de marbre? Il y a certes des dispositions de cœur qui vont faire que l'accessibilité est grande ouverte. Mais il y a surtout la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il nous fait entrer dans son intimité, qu'il nous permet d'en ressentir les bénéfices dans nos vies et d'en mesurer l'étendue sans limite. Et pour nous permettre de méditer ce psaume 139 ensemble, évidemment, on va devoir le fractionner en plusieurs morceaux, en quatre morceaux, dont la plupart de ceux qui étudient la Bible ont découpé en strophes. Dans votre Bible, tout s'aligne, tout se suit. Mais vous savez que les chants, ça se coupe. Il y a des strophes, il y a des couplets, il y a des refrains. Et donc, on a découpé ce psaume en quatre strophes, du verset 1er au verset 6, et c'est la strophe que l'on verra ce matin. Et puis du verset 7 au verset 12, et puis du verset 13 au verset 18, pour terminer du 18 jusqu'au verset 24. Et vous verrez qu'il y a une cohérence. Donc, je vous encourage à essayer de vous remémorer dimanche prochain ce qui a été dit ce dimanche pour continuer dans le fil. Aujourd'hui, attardons-nous donc sur les 6 premiers versets. « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur, tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi, tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Amen. » Dans ce psaume, David va mettre sur le devant l'omniscience de Dieu. Et cette omniscience se définit comme un état de connaissance absolue, le fait de tout savoir. Dieu sait tout. Il sait tout. Si vous avez déjà compris ça, il y a beaucoup de choses que vous allez éviter. Des situations dans lesquelles vous n'allez pas entrer. Parce que Dieu sait tout. Pour être souverain de toute sa création, de la création visible et de la création invisible, Dieu doit être omniscient. Et son omniscience n'est pas réservée à une seule personne de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous trois omniscients par nature. La Trinité, dans sa globalité, a cet attribut d'omniscience. Ainsi, Dieu sait tout, comme le mentionne le premier épître de Jean au chapitre 3 et au verset 20, « Car si notre cœur nous condamne, ça vous arrive que votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses, dit Jean. Tout. Il connaît toutes choses. On ne peut rien lui apprendre. On ne peut pas enseigner Dieu. On ne peut pas lui dire, « Seigneur, je ne sais pas si tu sais ce que l'autre m'a dit, si tu es bien au courant que, alors je souhaitais ce matin par la prière t'informer d'une situation. » Il n'y a rien que tu vas mettre Dieu au courant. Dieu sait tout. Voire même, ce serait plutôt à lui de te mettre au courant de certaines choses. Et prier, c'est plutôt recevoir des informations de Dieu que d'en donner à Dieu. N'est-il pas rassurant d'apprendre que Dieu sait tout? Si vous êtes malade, que vous allez chez votre médecin et que votre médecin vous dit « Je ne sais pas trop ce que vous avez. » C'est flippant, non? C'est assez grave, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors là, c'est encore plus flippant. Mais si votre médecin vous dit « Ok, j'ai vraiment cerné la pathologie qui est la vôtre et je sais de quoi on parle et je sais très bien m'occuper de ce problème que vous traversez actuellement. » Là, votre médecin gagne en confiance. Vous commencez à dire « Ok, c'est quelqu'un qui est au courant et qui a la maîtrise des choses. » Mais de savoir que Dieu sait tout, ça peut être aussi angoissant de réaliser que rien ne peut lui être caché. Il sait tout, quoi. On ne peut rien lui cacher. Rien. Ainsi, rien n'échappe à sa vigilance, à son contrôle, mais rien n'échappe non plus à sa comptabilité, à son gouvernement et donc à sa justice. Joël, au chapitre 2 et au verset 3, il était un prophète de Dieu, va dire « Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. » Il est vraiment question de sa justice. « Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. » Rien ne lui échappe. Rien ne passe au travers. Peut-être que toi tu te dis, comme il ne se passe rien, c'est que Dieu n'a rien vu. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir embrouiller Dieu. Vous pouvez embrouiller plein de gens, mais pas Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien que Dieu ne va pas en tenir comptabilité. Alors, le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est dans l'intimité du Dieu qui sait tout. « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais, » dira David. Dieu connaît non seulement les moindres détails de nos vies, de ta vie, de ma vie, mais il connaît aussi tout de notre entourage. Toi, tu peux aller te confier à un ami, à ton travail, lui expliquer ce que tu ressens, mais quelle va être son objectivité? Il va avoir jusqu'à l'analyse que tu vas bien vouloir lui faire de ta vie, de ce que tu vis, etc., en parlant de ton entourage. Seulement, Dieu ne va pas se fier juste à ce que tu lui dis, il a aussi la pleine connaissance de tout ce qui t'entoure. Alors, il est totalement objectif sur ta vie, parce qu'il sait réellement toutes les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Même ça, tu ne peux pas l'informer de ton mari pénible, de ta femme qui râle, et il le sait déjà. Il a pris la mesure de tout ton entourage. Il sait quelles sont tes circonstances. Il sait les difficultés par lesquelles tu passes. Il connaît tout. Dieu connaît non seulement les moindres détails de nos vies, mais aussi tous les détails de notre entourage. Il n'exerce pas seulement son activité sur nos vies au sein de nos circonstances, mais il fait également concourir toutes choses pour le bien de celui qu'il aime, selon ce que Paul écrira dans Romains 8:28, « Toutes choses concourent au bien de celui et de celle qui aime Dieu. » Dieu agit dans nos vies quand on lui laisse la place, la possibilité de le faire, mais il a aussi la main sur nos circonstances. D'ailleurs, je vous encouragerais à le laisser faire dans vos circonstances plutôt que d'aller vous-même essayer de les changer. Il s'y prendra beaucoup mieux que vous. Il permet donc à nos circonstances de travailler avec nous et pas contre nous, puisqu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Certains voient leurs circonstances comme étant des choses qui vont contre eux. Seigneur, tu vois mes circonstances dans l'état que ça me met. Mais est-ce que Dieu fait concourir tes circonstances à ton bien? Alors pourquoi tu t'en plains? Peut-être que ces circonstances qui sont difficiles, pénibles, etc., sont permises par Dieu parce qu'au travers de ces circonstances, tu es en train d'apprendre des choses qu'autrement tu n'aurais jamais apprises. Tu es en train de recevoir des choses que tu ne te disposais pas à recevoir avant. Il faut apprendre à voir nos circonstances avec le regard de Dieu, ne pas être fataliste, mais d'y voir la main de Dieu, de reconnaître Dieu en activité au milieu de nos circonstances comme étant un moyen dont Dieu se sert. Quelle grandeur de réaliser alors que son activité prend en compte toutes les circonstances qui nous entourent et pas uniquement nos vies au milieu des circonstances. La Bible mentionne qu'il sait, même quand un moineau tombe, il est même au courant quand nous perdons un seul cheveu sur notre tête. Dieu sait tout ce qui arrivera jusqu'à la fin de l'histoire. Il connaît déjà la fin du film, car il en est le scénariste, l'auteur du manuscrit. Dieu sait tout. Il n'apprend pas les choses au fur et à mesure que les informations arrivent ou que les choses se déroulent. Il sait déjà les choses à l'avance. Il a une préscience, une préconnaissance de tout. Dans Ésaïe, au chapitre 49, du verset 9 au verset 10, il est écrit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé, dès les temps anciens, car je suis Dieu. » Les prophètes était plutôt à dire « regardez dans le passé » au lieu de dire « regardez vers l'avenir ». De temps en temps, les prophètes annonçaient un message des choses qui allaient arriver. Mais souvent, les prophètes de Dieu étaient des hommes, un peu différents de ce que on voit certains prophètes aujourd'hui, qui pour moi sont plus des diseuses de bonne aventure qu'autre chose. Mais les prophètes de l'Ancien Testament étaient tournés vers le passé. « Regardez vers le passé. Regardez ce Dieu qui a été fidèle. Regardez ce Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Considère-le dans toutes ses voies et règle-toi sur lui. Rappelle-toi, Israël, rappelle-toi qui est Dieu, qui est celui qui a la souveraineté sur toi. Souvenez-vous de ce qui s'est passé, dit Ésaïe, dès les temps anciens, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu est souverain, il règne, il dit et la chose arrive. Il prononce des décrets et nous sommes dans l'obligation de les appliquer. Ainsi comme le mentionne Ésaïe, Dieu n'a pas seulement la préscience ou la préconnaissance des choses, mais il exerce un contrôle souverain sur toutes choses. Dans Philippiens 3:21, Paul proclame que Dieu a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi Dieu connaît aussi chacune de nos pensées. Si nos pensées lui étaient inconnues, quel contrôle aurait-il sur nos vies? Il faudrait qu'on lui porte à sa connaissance ce qu'on pense, pour qu'il puisse arriver à contrôler. Mais Dieu connaît nos pensées. Comment pourrait-il les diriger, les protéger et les conduire s'il n'en avait pas la connaissance? Je ne parle pas ici de l'intimité que nous avons avec lui, mais de l'intimité qu'il a avec nous. Parce qu'il y a une différence dans le fait que Dieu est dans notre intimité et que nous, nous soyons dans la sienne. Dieu n'a aucun problème à être dans ton intimité. Il te sonde, il te connaît. Il est la personne qui est le plus intime. Il sait tout de toi. Peut-être que des gens que tu aimes ne savent pas tout de toi, mais lui, il sait tout. C'est celui qui est le plus intime dans ta vie. Est-ce que tu peux en dire autant, toi, de Dieu, que tu es dans son intimité, que tu connais sa volonté, que tu sais ce qu'il aime et surtout ce qu'il n'aime pas, que tu le connais tellement bien? L'intimité parfaite n'est-elle pas définie par le fait de tout connaître de l'autre? Si on dit l'intimité parfaite, c'est tout connaître de l'autre. Dieu est dans une intimité parfaite avec toi. Il connaît tout de toi. Tu n'as même pas besoin de parler qu'il sait déjà. Waouh! Même ma mère qui m'a engendré ne me connaît pas comme il me connaît. Mon mari ou ma femme, ça fait 40 ans, 30 ans qu'il est à côté de moi, qu'elle est à côté de moi, ne me connaît pas comme il me connaît. L'intimité parfaite est définie par le fait de connaître l'autre entièrement. Ceux et celles que vous appelez vos intimes connaissent des choses sur vous que tous les autres ignorent, non? C'est vos intimes. Vous leur ouvrez votre cœur, vous dévoilez certains pans de votre vie à vos intimes, alors que tous les autres, que vous ne jugez pas être vos intimes, ignorent des choses sur vous. Mais les personnes que vous jugez les plus intimes dans votre entourage savent-elles réellement tout de vous? Tout. Il y a de nombreuses opacités au sein de nos relations, même au sein de nos relations les plus proches. Et de telles opacités sont parfois même générées par le simple fait de ne pas vouloir décevoir l'autre, parce qu'on pourrait lui dire. Certains me disent, je veux pas mentir. Ouais, mais t'es pas obligé de tout dire non plus. Et ne pas dire, c'est pas mentir. C'est ne pas dire. Est-ce que à chaque fois que j'ai une mauvaise pensée sur quelqu'un, je dois aller le voir? Ben voilà, je voulais te dire, j'ai eu une mauvaise pensée sur toi. Ah bon, et quoi? Ah ben voilà, je vais te dire tout franc. Parce que moi j'aime bien dire la vérité. Flatch, tu en mets une belle. Ben ma soeur, j'ai trouvé que t'avais grossi, hein. Elle est contente, la soeur, elle a pris une vérité, là. Ça lui fait bien plaisir. Ah mais moi je suis vrai, hein. Je suis authentique. Non, t'es pas authentique, t'es offensant. T'es blessant. Tu peux penser des choses, c'est pas pour ça que tu es obligé de les dire. On doit prendre soin des autres, on doit être rempli de douceur, de sagesse. On n'est pas là pour blesser, on n'est pas là pour offusquer, pour offenser. Tout n'est pas forcément bon à dire. Tout ce que je pense n'est pas forcément bon à dire. Et même au milieu de mes proches. Parfois j'ai dit des choses à ma femme et après je me suis dit j'aurais pas dû lui dire. Parce qu'elle a été blessée. Même si je le pensais au fond de moi, j'aurais pas dû le dire, j'aurais dû me retenir. Quand on laisse échapper, c'est bien de dire derrière, bah excuse-moi. Je le pense, mais j'aurais pas dû le dire. Mais là, il faut être vrai. Je l'ai pensé. Et vice-versa, je pense que c'est la même chose dans les couples. On doit pouvoir protéger notre relation. Et il y a donc des opacités qui sont là pour éviter de décevoir l'autre, éviter de le faire souffrir, et dans le but de le protéger, de la protéger. Dans Hébreux 4:13, il est dit: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Devant lui, tout est à nu et à découvert. Et dans son psaume, David réalise pleinement que Dieu est le parfait intime de sa vie. Tu sais tout. Tu sais tout de moi. Tu es le parfait intime de ma vie, il n'y en a pas d'autre. J'ai des conseillers, peut-être David avait même des confidents, mais il a un intime parfait dans sa vie, c'est Dieu, celui qui sait tout. Et parfois, on se tient devant Dieu comme celui qui ne saurait qu'en partie. On ne réalise pas qu'il sait tout. On ne se pose pas devant lui tel qu'il le faudrait. Et vous, ce matin, pouvez-vous entrer dans cette dimension dans laquelle était David, l'homme selon le cœur de Dieu ? Réalisez-vous, ou plutôt réaliser tout cela va vous permettre de ne plus penser qu'il soit utile de faire des efforts pour occulter les choses à la connaissance de Dieu. Ça va vous apaiser. Parce que parfois, on se dit, si je pouvais cacher certaines choses, ça nécessite des efforts. Mais cela vous gardera aussi d'en faire d'autres, car vous n'ignorez plus que Dieu en a la connaissance. Ainsi, réaliser la portée de l'intimité de Dieu vis-à-vis de nos vies doit susciter en nous la reconnaissance, la louange et le désir de sainteté. Ça génère ça en nous. La reconnaissance, la louange et le désir de sainteté. Un autre aspect de cette intimité profonde que Dieu entretient avec nous lui permet de connaître toutes nos pensées avant même que nous les exprimions. Est-ce que ça veut dire que, c'est plus la peine de prier, hein. Certains sont absolutistes. Ça sert à rien de prier puisqu'il sait. Et alors, moi combien de fois je voyais mes enfants, ils tournaient autour du placard, je savais qu'ils avaient faim. Hein. Mais je les laissais faire leur demande. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi ce que tu veux. J'ai faim, papa. Vas-y, sers-toi, prends. Amen. Dieu nous fait participer à son activité en priant. Il connaît nos besoins. Il sait ce dont nous avons besoin. Il pourrait s'occuper de nous sans qu'on lui demande rien. Et il serait totalement en phase avec nos besoins. Il nous donnerait ce qu'il y a de meilleur pour nous, sans aucun problème. Mais il souhaite nous faire collaborer à son œuvre. Et pour ça, il nous dit, mais demandez, et vous recevrez, et que Dieu soit béni. Il n'ignore rien de tes sentiments, il n'ignore rien de tes besoins, il mesure tous tes manques, et sait mieux que toi-même quelles sont les choses qui t'attirent et celles qui te repoussent. Il connaît tes goûts, tous tes goûts. Parfois, il en a du dégoût de tes goûts. Et il se dit, il ou elle en est encore là à aimer ça. Il connaît tous tes goûts. Comme diraient les jeunes, tout ce que tu kiffes, il le sait. Il sait ce que t'aimes là. Il connaît ta came, il sait à quoi tu marches. Il connaît tout de toi. En nous sondant, en regardant jusqu'au fond de nos cœurs, parce que David dit, tu regardes jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Le fond là, c'est là où il y a le dépôt, la lie. Vous savez, tout ce qui retombe là, tout ce qui est au fond là, la vase. Lui, il sonde jusqu'au fond, il va dans la vase, au fond de notre cœur. Il patauge dans ces choses, il sonde ces choses, il les mesure, il les analyse. Rien ne lui échappe. Rien. En nous sondant, en regardant jusqu'au fond de nos cœurs, Dieu va non seulement mettre en œuvre son plan parfait en faveur de notre vie, mais il nous dispose à vivre nous aussi dans une réelle intimité avec lui. Pourquoi vivrais-je vis-à-vis de Dieu comme s'il était un étranger alors qu'il connaît tout de moi ? Ai-je dans ma vie un ami aussi intime au point que je puisse dire qu'il connaît des choses de moi que moi-même j'ignore encore ? Est-ce qu'il y a un intime dans votre vie ? Dont vous pourriez dire, il connaît déjà des choses de moi que moi j'ignore encore. Généralement, tes intimes autour de toi, ils connaissent les choses quand toi tu les sais. Et même parfois avec un certain décalage. Mais Dieu, avant même que tu le saches, il le sait déjà. Et David ne peut retenir sa plume devant la grandeur de ce Dieu. Il réalise qui est son Dieu, quels sont ses attributs, et l'impact que tout cela a sur sa vie au quotidien. Parce que savoir qui est Dieu a nécessairement, obligatoirement, un impact sur notre vie au quotidien. Dans la version Louis II, il est écrit « Tu me sondes et tu me connais ». Et dans la traduction « Parole de vie », il est écrit « Tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais ». Le verbe « sonder » ou « regarder au fond de mon cœur » vient d'un mot hébreu qui se dit « chakar » et qui porte aussi le sens « d'examiner ». Tu explores, tu examines, t'examines, tu explores. C'est aussi le sens d'éprouver, tu éprouves, tu recherches, tu vérifies. Et alors, le dernier, celui-là, quand j'ai regardé l'essence des mots grecs,
déguster. Tu dégustes. Je ne sais pas si dans le dépôt qui est dans le fond de nos cœurs, Dieu vient déguster, mais en tout cas, il vient prendre la mesure. Comment vous savez qu'un vin est bon ? Si vous vous fiez à l'étiquette, vous n'êtes pas sûr, à un moment donné, il va bien falloir le porter à vos lèvres, le garder en bouche pour en faire ressortir tous les tanins, tous les goûts. Certains sont des experts pour même arriver à vous dire à quel endroit ce vin il vient, comment il était planté, en quelle année, etc., etc. Dieu va déguster, littéralement, il va sonder, il va déguster ce qui est dans nos cœurs. Il analyse tout. C'est grand, non ? Dieu nous déguste. Et parfois, on déguste après. Mais après. N'est-ce pas formidable d'imaginer que Dieu nous explore chaque jour dans le sens qu'il nous examine intérieurement, comme un parent, vous savez, qui s'efforce d'examiner extérieurement son enfant lors de la toilette quotidienne. La maman, elle lave son enfant et puis elle regarde. Est-ce que dans les plis, il n'y a pas une tique qui s'est mise ? On a été se promener dans la forêt, on regarde. Est-ce qu'il n'y a pas une tache ? Hein, les mamans, elles sont un peu parano avec leurs enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un bleu ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ? Surtout si elle a un bleu et elle va à l'école, vous allez avoir un signalement que vous le tapez. Donc aujourd'hui, il faut faire très gaffe. Hein, si un enfant a un bleu, il vaut mieux le dire à l'institutrice avant de l'amener à l'école. Parce que sinon, vous allez vous retrouver en problème avec l'aide à l'enfance. Donc à partir de là, la maman, elle lave son enfant et elle regarde dans les cheveux s'il n'y a pas des poux qui courent. Elle fait attention, elle veille sur lui, elle l'examine extérieurement. Dieu, lui, parce que nous sommes ses enfants, nous examine quotidiennement, intérieurement. Il nous sonde en permanence. Dieu ne cesse de veiller sur nos vies. Il regarde jusqu'au fond de nos cœurs, au plus profond de nos cœurs, là où se trouvent nos motivations les plus enfouies, les bonnes comme les mauvaises, notre ego surdimensionné ou sous-dimensionné, nos blessures les plus refoulées, nos croyances les plus dévoyées et tenaces, comme les mieux positionnées et ancrées. Il sonde tout. Rien n'échappe au regard scrutateur de Dieu. Il lit en nous comme dans un livre ouvert et parcourt notre vie et tout notre être qu'il explore sans que rien ne vienne lui faire obstacle. T'as beau dire, mais moi je veux pas. Ça, il s'en fiche que tu veuilles pas. Dans Job 13,9, il est dit, s'il vous sonde, vous approuvera-t-il ? De savoir que Dieu nous sonde est une chose. Mais quand il nous sonde, nous approuvera-t-il ? Que va-t-il ressortir de ce qu'il va trouver dans nos cœurs et dans nos vies ? Quel va être le résultat de l'examen ? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme ? Pensez-vous le tromper ? Et faire dévier son analyse ? Job savait que Dieu va au fond de nos pensées et qu'il démêle sans peine nos secrètes intentions. Ainsi, il voit si nous agissons par un simple calcul ou si nous sommes poussés par une motivation qui est beaucoup plus louable, profonde et spirituelle. Job pouvait se faire leurrer sur les intentions de ses amis et sur leur bonne volonté à l'aider. Mais il ne pouvait pas tromper Dieu, même si leur discours reposait sur une certaine logique. Dieu est bien au-delà de la logique. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Dieu ne travaille pas sur la logique. Les miracles, c'est pas très logique. C'est même très illogique. Mais pourtant, Dieu est capable de faire sortir du néant des choses. Des choses qui ne sont pas à l'existence, il les fait exister. Ça, c'est pas logique, hein. Donc Dieu n'a pas besoin d'agir sur ta logique à toi, sur ce que tu penses logique. Les amis de Job disaient des choses très logiques. Quand on écrit, quand on lit ce qu'ils ont écrit, c'était très logique. Seulement, ce n'était pas ce que Dieu était, ce que Dieu faisait. Dieu nous sonde, et parce qu'il nous sonde, il nous connaît. David disait, tu me sondes et tu me connais. Et l'omniscience de Dieu, sa toute connaissance lui permet de tout savoir, de tout connaître, mais aussi de tout comprendre. Parce que Dieu n'a pas seulement l'information, il sait. Certains, ils savent, mais ils ne comprennent pas. Je sais ce que tu vis, mais je ne comprends pas, parce que je ne le vis pas. Je sais, mais je ne comprends pas. Je sais, mais je n'excuse pas. Je sais, mais je ne sais pas quoi faire. pour t'aider. Dieu sait, mais aussi Dieu comprend. Il comprend tout. Il possède bien plus qu'une quantité d'informations sur toi, sur nous. Il me connaît, moi, personnellement, intimement, comme nul autre ne me connaît. Ainsi, quand il me sonde, cela dénote un regard complet et attentionné sur ma vie. Il me connaît, il perçoit et prend directement connaissance de ce que je suis. Son but ultime en me sondant, c'est de me comprendre. Puis certains, il faut les sonder longtemps. Le verbe sonder, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné des sens, mais il y en a un qui est un peu particulier. C'est disséquer. C'est quoi pour vous disséquer? Vous aimez être disséqué? Non, on n'aime pas. Ah non. Dieu connaît mon cœur comme nul autre. Il l'examine comme s'il le disséquait par sa capacité d'analyser toutes choses, mais tout en maintenant leur intégrité. Il arrive à me disséquer tout en maintenant l'intégrité. Un scientifique, il dissèque, mais il coupe, hein. Il broie, il dissout. Mais Dieu, lui, il arrive à disséquer tout en maintenant l'intégrité. Il n'y a que lui qui sait faire ça. Jérémie, chapitre 17, verset 9 à 10, le prophète dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui ?»« Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. » Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. En me sondant, en pénétrant mon cœur tortueux et méchant, Dieu m'examine pour agir envers moi de la manière la plus appropriée qui soit, la plus adaptée à ce que je suis. Notre Dieu n'est pas un, excusez-moi l'expression, n'est pas un bourrin borné qui se contenterait d'appliquer une méthode après avoir effectué des constatations partielles. Ça, c'est les bourrins bornés qui agissent comme ça. Et parfois, on est des bourrins bornés dans la vie de nos frères, de nos sœurs et de ceux que nous aimons. On a fait des constatations partielles et on agit selon une méthode. C'est comme ça. Le bourrin borné. Dieu n'est pas un bourrin borné. Ainsi, un disciple doit aspirer à être sondé par Dieu quotidiennement. À être examiné par lui en totalité. Vouloir cacher des choses à Dieu est le témoignage d'une méconnaissance de Dieu et au mieux d'une immaturité spirituelle. L'examen de Dieu est celui qui permet d'orienter nos vies, qui sont en constant développement afin de les conformer, de les diriger selon son plan ou à la volonté qu'il a pour nous dans ses desseins créateurs, ses desseins de Père. Dieu ne connaît pas seulement les choses importantes qui secouent le monde, mais il connaît tous les détails les plus anodins de notre vie. Il est un Père digne de ce nom, comme n'importe quel Père qui aime ses enfants. Et bien plus encore, il connaît tous les détails de la vie de que personne ne sait. Dieu ne nous connaît pas juste au travers de nos temps forts, de nos réussites, de nos moments de gloire. Il nous connaît tout autant sur le rapport de notre banalité, de nos échecs, de nos moindres faiblesses et de nos défaillances. Dans l'intimité du Dieu qui nous aime, tout particulièrement. Tu sais quand je m'assois, dira David au verset 2. Tu sais quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense, tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, tu connais toutes mes actions, j'ai pas encore ouvert la bouche, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Oui, Dieu connaît longtemps à l'avance ou de loin, selon la traduction, tous nos mouvements quotidiens, toutes nos pensées, toutes les paroles de nos vies. Que pensez-vous du fait que Dieu vous devance en toute chose? Personnellement, cela me rassure. De savoir que Dieu sait déjà tout avant même que j'ai commencé à lui formuler mes besoins. Et à la lecture de ces versets, nous pourrions penser que Dieu observe, nous observe, et note scrupuleusement tous les mouvements importants de notre vie et toutes les réactions et les actions bonnes ou mauvaises que nous accomplissons. Vous savez, si vous venez chez moi, je peux vous partager des albums photos, on en a à peu près une bonne dizaine, et les vidéos aussi qui concernent mes enfants. Noémie et Emmanuel. Depuis qu'ils sont tout bébés, j'ai même des photos alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur maman. Je peux vous faire visualiser des vidéos de mes enfants à différents moments de leur vie quotidienne. Vous pourrez y voir des scènes d'une grande banalité. Sincèrement. n'y a pas de quoi en faire un film à passer devant un public. Mais ces moments étaient tellement importants pour moi, mon épouse et mes enfants. Tellement importants. Vous y verrez aussi des temps forts, pleins d'émotions qui ont marqué la vie de mes enfants et notre vie de famille. Mais je n'ai pas de vidéos et de photos des moments difficiles qu'ont traversé mes enfants, de leurs échecs, de leurs souffrances. Il faudrait être un peu tordu pour filmer ces moments-là, vous ne trouvez pas ? On aime les oublier. Je n'ai pas filmé toute leur vie, 24 heures sur 24. Non. Je sais que j'ignore beaucoup de détails qui sont passés inaperçus à mes regards de père, voire même des choses que j'ai totalement oubliées. Mais quand je pense à Dieu, quand je réalise qui il est, je sais comme David qu'il a tout filmé. Tout. Avant même que j'existe, ses regards étaient déjà sur moi. Il avait déjà tout tracé. Tout est filmé. 24 sur 24, tout le long de ma vie, il me regarde. Tout le temps. Aucun détail ne lui échappe. Rien. Rien. Il n'oublie rien de l'enfant que je suis. Rien ne passe inaperçu. Rien. Aucune souffrance n'est passée sous silence. Peut-être ton père et ta mère n'ont pas vu certaines souffrances dans ta vie d'enfant. Lui, aucune souffrance dans ta vie ne lui échappe. Rien. Aucun détail n'est balayé, aucune souffrance n'est oubliée, aucun échec n'est passé sous silence. Cette connaissance n'est pas dans un but manipulatoire, de te manipuler, mais elle revêt des objectifs qui sont bienveillants, dans une volonté de protéger, de former et d'édifier. Quand Dieu, ce Père parfait, s'occupe de moi, qu'il me conseille et me dirige, c'est en ayant à la mémoire, qui je suis dans toute mon histoire et avec une telle précision, qu'il agit avec une fantastique pertinence, une douceur extrême et une délicatesse suprême. Et quand David dit « tu me connais », ça vient de l'hébreu « yada ». Et ce verbe porte différents sens. Tu sais, tu prends connaissance et tu prends soin de moi. Tu me comprends, tu découvres, tu perçois, tu discernes et distingues afin de porter ces choses à ma connaissance. Et dit autrement, tu me révèles à moi-même. Tu me sondes pour me révéler à moi-même. Si tu sais des choses que moi-même j'ignore sur moi. Et quand tu me sondes, tu me révèles à moi-même. Mais quelle grâce d'avoir ce Dieu, cet intime dans notre vie. Mais Yada veut aussi dire, tu m'instruis et tu me fais connaître et tu te révèles à moi. Non seulement tu as cette analyse pertinente sur ma vie, tu me permets de me connaître moi-même, mais au travers de ces choses, tu m'instruis et tu me formes. Tu me fais grandir, tu corriges les trajectoires. Tu me restaures. Pour David, Dieu est d'abord celui qui nous connaît, mais en agissant ainsi, il est celui qui se révèle à nous, tel que le verbe « yada » nous permet de le réaliser. L'intimité que Dieu entretient avec nous nous invite directement à entrer dans son intimité à lui, à connaître son intimité. Mais entrer dans l'intimité de Dieu, ce n'est pas sonder Dieu comme il nous sonde. Job au chapitre 11 et au verset 7 dit « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu et parvenir à la connaissance ?» du Tout-Puissant, la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Lui te connaît parfaitement. Mais toi, est-ce que tu peux le connaître parfaitement, ce Dieu insondable? Dans Ésaïe 40, 28, il est dit, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Moi, entrer dans l'intimité de Dieu, c'est pas essayer de sonder Dieu. Qui je suis pour vouloir sonder l'insondable. Moi, la seule chose que je recherche, c'est sa présence rassurante. C'est de lui permettre de continuer son activité dans ma vie. C'est pas essayer de connaître tous ses mystères cachés et ses intentions. Dieu reste un Père insondable pour nous et nous demeurons ses fils sans cesse sondés par lui. Il y a dans toutes ces choses, dans cette relation particulière, une gloire et un amour profond que nous devons apprendre à découvrir et à jouir tout le long de notre vie de disciples. Et c'est en réalisant notre identité en tant que fils et filles de Dieu, en commençant comme David, par une connaissance réelle de Dieu, que l'on peut ensuite vivre dans l'intimité de Dieu pour entendre sa voix et comprendre sa volonté. Parce que quand on n'est pas dans l'intimité de Dieu, on n'entend rien. Et le fait de connaître Dieu dans son intimité doit être le but même de notre vie. C'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Le sens de la vie d'une créature se trouve dans la personne même de son Créateur. Parce que Dieu a tout créé pour un but, comme le déclare le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Ça va très loin, il dit. Il a même créé le méchant pour le jour du malheur. Dieu fait tout pour un but. Il ne fait rien pour rien. Moi, je fais plein de choses pour rien, mais tout ce qu'il fait a un but. Et quand il m'a fait, il avait un but. Est-ce que le but qu'il visait en me créant, je suis dedans actuellement? Est-ce que je remplis le dessein créateur de Dieu au travers de ma vie? Ça, c'est l'épanouissement de nos vies, quand enfin on correspond à ce que Dieu avait pensé quand il nous a créés, au but qu'il visait. En attendant, on bricole. Mais le degré de cette connaissance dépendra plus de Dieu que de nous. Dieu, en nous sondant, va accomplir l'œuvre initiale qui découle directement de l'œuvre du Christ à la croix. En mourant au calvaire, Jésus va expier nos fautes, nous réconcilier avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 19, il est dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » C'est parce que d'abord Dieu entre dans notre intimité qu'enfin nous pouvons entrer dans la sienne. Quand Dieu nous sonde, il témoigne à nos vies de sa paternité, car c'est comme un père vis-à-vis de ses fils qu'il le fait. En agissant ainsi, il ouvre nos cœurs, nos consciences à son existence et trace en nous l'itinéraire qui nous conduit jusqu'à la maison du Père en suivant l'exemple de son fils bien-aimé. Si tu veux connaître où est la maison du Père, suis le fils bien-aimé. Suis ses traces, son exemple. Je vais au Père, vous en savez le chemin. Ça veut dire quoi? Je suis le chemin. Suivez-moi, je vais au Père. Suivez mon exemple. Marchez dans mes traces. Je connais la route. Je suis la route. Ainsi, en nous sondant, Dieu ouvre nos cœurs et il crée la brèche dans le terrain dur de nos vies pour y implanter la sienne, la vie du Christ, l'itinéraire qui nous amène à Dieu. Dieu se révèle à nous par sa parole et il souhaite réellement qu'on le connaisse, comme il dira par la bouche de son prophète Jérémie. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante d'être assez intelligent pour me connaître. Tout le reste, ça vaut rien. Qu'il se vante d'être assez intelligent pour me connaître. Cette connaissance se fait obligatoirement par Jésus-Christ, comme l'a dit Jean 14, 6. Et c'est Jésus qui parle. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Et connaître Dieu intimement, c'est marcher avec lui sur les traces de Jésus-Christ. C'est ça, être un disciple. Il y a trois aspects essentiels à retenir. Connaître Dieu, c'est le connaître intimement, avoir une relation personnelle avec lui et non pas se contenter d'avoir des connaissances sur lui. Certains ont des connaissances sur Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. C'est aussi une question d'engagement personnel dans le domaine de l'intelligence, de la volonté, des sentiments. Cela veut dire être engagé émotionnellement pour Dieu, avoir les mêmes sentiments que ceux de Jésus-Christ, ressentir les mêmes choses. C'est ça, connaître Dieu. C'est être impacté dans sa vie. C'est une question de grâce, parce que c'est Dieu qui fait le premier pas. Quand Dieu décide de se révéler à nous, cela doit nous pousser à l'humiliation premièrement. Puis à l'adoration, puis à la louange et à la reconnaissance. Voilà le chemin à suivre pour entrer dans l'intimité de Dieu. Humiliation, adoration, louange et reconnaissance. Ça, c'est le chemin qu'il faut suivre. C'est l'itinéraire. Voilà le chemin à suivre pour entrer dans l'intimité de Dieu. C'est le chemin du Christ qui, partant du ciel, va jusqu'à la croix. Et nous, en tant que disciples, ben, on part d'où? On part de la croix pour aller jusqu'au ciel. C'est le chemin du retour. Il a fait le chemin aller, il est venu jusqu'à nous et il nous a montré le chemin pour repartir. Mais de là où il s'est révélé à nous, à la croix, c'est de là que nous, nous devons commencer. Et si nous voulons entrer dans la vie de disciple, il faut d'abord venir à la croix, nous repentir, prendre la mesure de nos péchés et de son pardon. Si tu as contourné cette étape, tu es déjà sur le mauvais chemin. Même si ça a des allures de spiritualité, le point de départ, c'est la croix. Et en partant de la croix, tu es sur la route qui te mène au ciel. Quand Dieu décide de se révéler à nous, cela doit nous pousser à l'humiliation, puis à la louange, l'adoration et la connaissance et la reconnaissance. Son abaissement devient ainsi l'objet de notre élévation. Je terminerai dans l'intimité du Dieu qui nous émerveille. Et on termine notre méditation ce matin sur les deux derniers versets de cette première partie du psaume 139. Dans la traduction Parole de vie que je vous ai lue ce matin, tu es derrière moi, tu es aussi devant moi et tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Dans une autre traduction, aussi en français adapté, dans la Bible français courant, il est dit « Tu es derrière moi, tu es aussi devant aussi, tu poses ta main sur moi, que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. » Et le psalmiste va terminer ce que l'on pourrait qualifier de première strophe par ce qu'il faut qualifier d'un profond émerveillement. Mais de quoi s'émerveille-t-il ? Comment vous traduisez « Tu m'entoures par derrière et par devant et tu poses ta main sur moi » ? Comment vous traduisez ce verset ? Ça vous fait penser à quoi ? Isabelle a fait un câlin. Il est tout autour de nous et il nous protège, c'est ça ? Il nous garde ? Il nous cajole ? C'est sa providence ? Vous êtes d'accord avec ça ? Eh bien, c'est pas ça. Vous allez voir, il est vraiment question d'autre chose. Beaucoup traduisent d'une manière basique l'expression « Tu es derrière moi, devant aussi, et tu poses ta main sur moi », comme s'il s'agissait d'une protection, d'une marque d'affection que Dieu nous accorde. Mais la véritable traduction est tout autre. Dans ce verset, David sait que Dieu l'encercle comme on encercle parfois une troupe avant qu'elle ne capitule. Tu m'entoures par derrière et par devant, c'est-à-dire tu m'encercles comme une armée m'encercle. Je ne peux plus bouger, je suis piégé. Tu montes un siège autour de moi. Littéralement, tu m'enserres, tu m'entoures. Ce n'est donc pas une protection que Dieu déploie autour de nous, mais un réel état de siège. Avez-vous déjà été assiégé par Dieu, littéralement bloqué, privé de toute marge de manœuvre, mis en contrainte ? Dans ce cas précis, la seule chose que Dieu attend de nous, c'est notre reddition. Mais le verbe « entourer » signifie également « confiner » et « mettre en sûreté » pour mieux former et façonner. Dans ce cas précis, la dernière partie du verset prend tout son sens quand David déclare « Et tu mets ta main sur moi ». Il y a ici l'image d'un berger qui se saisit de sa brebis pour lui apporter tous les soins nécessaires dont elle a besoin. Devant tant de sollicitudes de la part de Dieu, David n'a qu'une seule réaction ou déclaration « Que tu me connaisses à ce point » est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Bethmour dira « Louange devient obligatoire quand nous éprouvons une véritable intimité avec Dieu. » La louange et l'émerveillement sont deux tonalités qui jaillissent d'un cœur formé et façonné par Dieu. Ainsi, en intégrant le Seigneur dans tous les aspects de mon existence, l'un des dangers de la vie chrétienne, c'est de sortir Dieu de nos joies pour ne l'intégrer qu'à nos épreuves, ou bien de sortir Dieu de nos épreuves pour ne l'intégrer qu'à nos louanges. Là encore, la notion d'équilibre est capitale.
Quand notre engagement pour le Christ est la réponse à son engagement pour nous, nous franchissons les limites de notre propre bien-être. Nous traversons les courants contraires de notre volonté charnelle. Nous escaladons les sommets infranchissables du renoncement pour demeurer dans la mort à soi-même. À cet endroit, la présence du Christ devient palpable, son intimité devient réalité et notre spiritualité s'approfondit. C'est le lieu de ceux et de celles qui ont accepté l'engagement total. Ceux-là vivent alors dans l'émerveillement. Amen.